Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. À travers Instagram, je découvre plein d'univers différents, mais aussi des combats, car si ce réseau social déploie quantité de jolies photos, il permet aussi de diffuser des messages forts. C'est le 17 octobre, lors de la Journée mondiale pour le don d'organes et de la greffe, que j'ai eu connaissance du combat que mène Marine, la maman d'Aiden, et qui souhaitait diffuser son message au plus grand nombre. Message dont elle va vous parler dans cet épisode. Avec Marine, on discute des complications de sa deuxième grossesse, de son bébé guerrier et de la force que les enfants peuvent transmettre dès le plus jeune âge. Bonne écoute. Bonjour Marine, un grand merci d'avoir accepté de témoigner dans Le Tourbillon.
Merci à toi.
Alors, tu es maman de deux garçons, Evan qui a 2 ans et Aiden, le petit dernier, qui a 10 mois.
Oui, c'est ça.
Je voulais savoir comment s'était passée ta première grossesse.
Alors, ma première grossesse, la grossesse en elle-même, elle s'est super bien passée. Elle a été compliquée de l'avoir parce que j'ai mis 4 ans pour avoir Evan. Ça a été très compliqué. Il y a eu traitement hormonal pour l'avoir. Premier traitement qui était juste un essai, en fait, mais voilà... La magie a quand même opéré, donc j'ai eu Evan. Donc ça a été compliqué, mais je l'ai eu. Et la grossesse, ça s'est super bien déroulée. Donc franchement, parfait, en très bonne santé. Un pur bonheur pour Evan.
Tu as très vite été enceinte de ton deuxième enfant suite à ton premier accouchement. Comment est venue cette décision de faire un enfant rapproché ?
La décision, elle n'a pas eu lieu du tout, en fait. C'était une grosse magie. Voilà, ça a été très compliqué pour avoir Evan. Et donc, dans nos têtes, on était même prêts à se dire qu'il n'y aurait pas de deuxième bébé. On était prêts à se dire que voilà, s'il fallait tout recommencer, on n'était pas prêts dans l'immédiat de refaire tout ce qu'il fallait faire. C'était une très grosse surprise de savoir qu'il y avait encore la vie en dessous de mon nombril une deuxième fois. Mais une très bonne surprise du coup, parce que voilà, on s'imaginait que c'était peut-être pas possible du tout. Donc ça a été très très bien accueilli.
Et alors, comment s'est passée cette deuxième grossesse ?
Alors, au début, très bien. Les 3-4 premiers mois, ça s'est très bien passé, normalement, avec des maux de grossesse. Comme pour Evan, donc malade, très malade, mais en même temps très heureuse parce que je me disais, je suis en train de recréer la vie, donc je pouvais que être heureuse. Jusqu'à la première échographie morphologique, donc là, rendez-vous avec le gynécologue. Voilà, au tout début, ça se passait bien, et à la fin de ce rendez-vous-là, il m'explique qu'il y a une petite dilatation de la vessie. Il s'inquiète pas, il me dit c'est très fréquent chez les garçons qui vident pas complètement leur vessie. Donc il a dit voilà, pour l'instant il n'y a pas lieu de s'inquiéter, on va juste reprendre un rendez-vous 15 jours après, donc une échographie contrôle, pour vérifier s'il a bien vidé sa vessie ou si ça n'a pas continué à se dilater. Il n'était pas inquiet en tout cas, donc 15 jours après on y retourne et là il nous confirme que par contre la dilatation elle a continué à évoluer, donc il m'a dit là il y a bien un problème, il y a une anomalie. Voilà, on ne sait pas trop sur quoi se pencher, donc là il nous a dit là on va prendre un rendez-vous avec un spécialiste à l'hôpital directement pour en savoir plus. Donc là on repart de notre rendez-vous. Comme ça.
Et t'es à combien de mois de grossesse ?
Donc là, j'étais à 4 mois et demi.
D'accord.
À 4 mois et demi. Donc voilà, il nous explique qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il ne peut pas nous dire si c'est grave ou si c'est pas grave, et on repart comme ça sans rien. Là, on s'effondre parce qu'on se dit, il y a quelque chose qui se passe, mais on ne sait pas quoi. Puis il nous a absolument rien dit, il peut pas nous dire si c'est grave. Donc là, on se dit, mais ça veut dire quoi ? Dans quoi on va se tourner ? Et puis à ce terme-là, je me dis, je suis qu'à 4 mois et demi. Et puis en plus, le rendez-vous, il n'est pas tout de suite, hein, parce que le temps de prendre le rendez-vous avec le spécialiste. En gynécologie donc de l'hôpital, ça a pris presque un mois, donc 3 semaines, un mois, donc il fallait attendre, et pendant ce temps-là, c'est très compliqué. Donc là, ma grossesse, je la vis plus du tout sereinement. Donc on arrive à notre rendez-vous à l'hôpital et donc il nous confirme bien qu'il y a une pathologie. Voilà. Donc là, il nous confirme qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vessie. Alors il nous l'explique grosso modo que c'est un problème de tuyauterie et que c'est assez fréquent chez les garçons. Donc il n'était pas du tout inquiet non plus. Il nous a énormément rassurés. Donc on est même vraiment reparti de ce rendez-vous-là très rassurés. Lui, il a dit voilà, vous allez vivre votre grossesse jusqu'à la fin, normalement. Vous irez à terme. Parce que à ce stade-là où j'en étais, il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Et donc il a dit on va suivre de près, mais une fois par mois, ni plus. Et une fois qu'il va naître, on vérifiera d'où vient cette pathologie-là. Après, il y avait plusieurs facteurs, donc il ne m'a pas dit exactement, il n'a pas voulu s'enfourcher dans quelque chose. Mais il a dit, voilà, on verra ça à ce moment-là, il aura des examens, peut-être une opération, mais c'est quelque chose qui sera bénin, il ne faut pas vous inquiéter. Voilà, un problème de tuyauterie. Donc on était hyper rassurés, quoi. À partir de là, je revis ma grossesse sereinement, quoi.
Comment s'est passée la suite après ce rendez-vous ?
Donc après ma grossesse, je la vis vraiment sereinement, je suis rassurée. On prend même la décision de pas trop en parler autour de nous pour essayer de pas trop y penser, pas trop stresser là-dessus pour essayer de vivre une grossesse normalement en fait. Donc on n'en a pas parlé autour de nous. Voilà, je revis ma grossesse normalement, je sens mon bébé bien bouger, même plus qu'Evan je trouve. Et donc arrive la 31e semaine. Où là, dans mon lit, le matin, je me réveille. En fait, je me réveille, mais je sentais que voilà, j'étais, souillée. Voilà, mais mince, je vais dans la salle de bain, parce que je vois pas tout de suite. Le temps que je me réveille, mes yeux ne s'ouvrent pas comme ça. Mais je me sentais mouillée, effectivement. Alors, je me dis, peut-être que voilà, j'ai eu une petite fuite, on sait pas, quoi. Donc, arriver à la salle de bain, je vois que, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de sang, finalement. Donc, je panique. Là, j'étais toute seule parce que mon mari, il part de bonne heure le matin. Donc, il y avait Evan. Et forcément, en paniquant, j'ai hurlé, j'ai pleuré parce que je me dis, ça y est, je perds mon bébé. Donc, Evan à côté s'est réveillé. Donc, le fait qu'il soit réveillé, ça m'a aidé à replacer ma tête sur mes épaules, à me dire qu'est-ce que je fais. Bon, j'appelle tout de suite mon mari, je lui explique. Donc, je panique, il me tempère. Et du coup, j'appelle mes parents pour qu'ils viennent directement parce que c'était eux les plus près pour venir me chercher et m'emmener à l'hôpital. Vu que mon mari travaille vraiment à côté de l'hôpital comme ça, lui, il était directement sur place pour m'accueillir.
D'accord.
Et en attendant, je rassemble les affaires et je me prépare. Et puis, Evan, je reste à côté d'Evan. J'ai pas voulu le porter pour pas empirer les choses. Donc, je suis restée à côté d'Evan et ça m'a permis de reprendre mes esprits. Donc on arrive à l'hôpital rapidement, on est pris en charge très rapidement. En allant à l'hôpital, déjà, je ressens quand même Aiden rebouger dans mon ventre. Donc déjà, un gros soulagement en disant, rien n'est perdu. On arrive à l'hôpital, donc là, premier monitoring, le monitoring le plus rassurant de ma vie automatiquement parce qu'il y a une bonne fréquence cardiaque, ça se passe bien au niveau respiratoire, au niveau cardiaque pour Aiden. Donc déjà, un gros soulagement. Ensuite, on fait donc une échographie d'urgence et là, on nous explique qu'il a plus de liquide amniotique. Donc là, par contre, il y a une autre urgence vitale, c'est qu'il ne faut pas qu'il reste dans le ventre. Donc il y a une petite batterie d'examen pour vérifier comment ça se passe. Lui, il n'était pas en souffrance, donc pour l'instant, voilà, on pouvait préparer un petit peu les choses, entre guillemets. Il y a eu une journée où on a pu préparer, revoir le gynécologue qui était spécialisé, que je n'avais vu qu'une fois, finalement, entre-temps. Et du coup, alors au début, il était plutôt serein quand il m'accueille, et puis finalement, quand il se rend compte qu'il n'y a plus de liquide amniotique, il n'est plus du tout serein non plus. Donc il explique qu'il va y avoir une réunion, qu'on va essayer de voir un petit peu ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire. Puis au fur et à mesure, dans la journée, je vois plein de monde arriver dans ma chambre, parce que du coup, je suis restée à l'hôpital pour rester sous surveillance avant de prendre la décision d'une interruption de grossesse. Et donc, je vois beaucoup de monde. Donc je vois une psychologue, je vois un chirurgien, je vois une néphrologue. Moi, je comprends pas du tout, je dis une néphrologue, pourquoi ? Enfin, je comprenais pas non plus le mot néphrologue. Je revois la psychologue qui revient après, qui nous fait visiter du coup les soins intensifs en néonatologie. Donc là, on se rend compte qu'il va se passer quelque chose en fait.
Et personne ne t'explique rien à ce moment-là.
On nous explique qu'il se passe quelque chose d'important, que mon bébé, il n'y a plus de liquide amniotique, qu'il faut qu'il sorte absolument, que c'est très certainement dû à ce qui lui arrive au niveau de la vessie. Bon, alors après, on m'explique qu'il y a plusieurs possibilités de pathologie, mais là ils sont quand même en train d'émettre un doute sur la valve de l'urètre. Donc ils ont un gros doute là-dessus, donc ils commencent un petit peu à m'expliquer ce système-là, mais sans vraiment trop comprendre. Donc après je me dis, mais pourquoi il y a autant de monde dans ce cas-là, si c'est quelque chose qui est assez bénin. Après ils m'expliquent, oui, mais bon, ça va être quand même un grand prématuré, donc il faut aussi faire attention à ça, parce qu'il n'y aura pas que ce problème-là, il y aura aussi la prématurité qu'il faut prendre en compte. Après, voilà, ils me disaient, oui, mais bon, à 31 semaines, c'est un grand préma, mais ça reste encore quelque chose qui va bien se passer. Aujourd'hui, avec tout ce qu'ils mettent en place, ça va bien se passer. Donc voilà, on se prépare quand même à tout ça, mais et heureusement, parce que voilà, ils ont vraiment été très forts là-dessus pour nous préparer à beaucoup de choses, pas à tout, parce qu'on ne peut pas se préparer à ce qui a pu se passer, donc c'était compliqué quand même, mais ils nous ont bien préparé. Donc là, ils m'expliquent l'interruption de grossesse, du coup, qu'ils vont faire une césarienne, que c'est une question vitale pour lui. Donc là, je suis dans un état, je me mets en mode guerrière, quoi. Je me dis, bah, faites ce que vous voulez de moi, s'il faut me couper en deux, vous me coupez en deux. Si ça peut permettre qu'il vive, là, je dis, voilà, moi, on me dit vital, bébé, je me pose plus de questions. J'étais prête à tout, j'ai voulu prendre toutes les informations qu'on me donnait, même si c'était beaucoup, mais pour essayer de me préparer au maximum pour lui. Voilà, j'essayais de me détendre au maximum pour aussi que lui, il le ressente et que... Bah, qu'il puisse venir le mieux possible, parce que je savais que ça allait pas être évident non plus pour lui. Donc voilà, je me suis mis en mode guerrière. L'interruption, elle est programmée donc, le lendemain matin. Donc la veille, il m'avait fait une première injection de corticoïdes pour commencer à préparer les poumons du bébé, du coup, pour l'aider au développement du poumon. Et le lendemain matin, une deuxième injection, mais très tard. Vraiment peu de temps avant l'interruption de grossesse, donc qui a pas dû faire grand effet. Qui n'a pas dû vraiment aider du coup. Et donc il est né, je l'ai à peine vu. Déjà je l'ai entendu. Par contre, ça c'était vraiment le cri voilà, qui m'a fait pleurer, qui m'a rassurée parce que je l'ai entendu crier, donc il vivait déjà. Donc c'est quand même hyper rassurant avec tout ce qui s'est passé, que voilà, avec le sang, tout le tralala, moi je m'étais fait une idée que ça y est, je le perdais. Et bon, il est sorti et il vit. Donc déjà, c'était une belle victoire. Déjà de l'avoir entendu, le cri, ça m'avait énormément rassurée. Après, il est très très vite emmené, forcément. Je l'ai vraiment à peine aperçu. J'ai vu un bout de sa tête, c'est tout ce que j'ai pu voir. On voyait qu'il avait déjà un état critique niveau respiratoire, donc ils l'ont très vite ramené et donc ils n'ont pas pu le poser sur moi ni quoi que ce soit. Donc ils l'ont très vite emmené. Donc papa a été rapidement, l'a vu rapidement comme moi, mais n'a pas pu le voir plus que ça non plus. Donc il est pris en charge très rapidement et il part. Et là, donc là, je me retrouve en salle de réveil. Toute seule avec mon mari qui était resté avec moi, bien sûr, heureusement. On a attendu, on n'a pas plus de nouvelles que ça. Ensuite, il nous monte dans la chambre, donc toujours toute seule. On n'a toujours pas plus de nouvelles que ça. On nous dit qu'on vous préviendra, on vous appelle quand on aura des nouvelles, et on ne nous appelle pas. Donc on rappelle nous-mêmes en disant, bah, est-ce qu'on peut descendre? Non, pas encore. On rappelle encore, et là, on finit par rappeler à 17h30. Donc ça commence à faire long. Les heures devenaient interminables pour nous. Alors après, on savait qu'il était bien entouré, on s'occupait de lui, donc on se dit vaut mieux que ce soit... La priorité, c'était lui et la santé, donc on sait être patient, mais voilà, à un moment donné, on veut le voir, quoi. Donc à 17h30, on nous dit, bah, vous pouvez descendre. Mais voilà, sans nous dire plus ni quoi que ce soit, vous pouvez descendre. Donc on descend. La première chose que je vois, c'est plein de blouses blanches autour de lui. Et c'est vraiment ça qui m'impressionnait. Après, voilà, je voulais surtout le voir, mais ce qui m'avait impressionné, c'était de voir toutes ces blouses blanches. On était habitués à voir les chambres, à voir tous les appareillages et voilà, tout ce qu'il y avait autour de lui. On nous avait préparé à le voir branché, donc ça ne m'a pas du tout impressionné de le voir branché. Parce qu'il nous montre des jolies photos la veille et ils m'ont apporté un album de photos prématurées. Et ça m'aide à, voilà, à me dire que mon bébé il sera comme ça. Donc ça ne sera pas une surprise, je vais le voir comme ça, mais c'est pour son bien. Donc j'étais préparée à ça et ça ne m'a pas du tout... dérangé de le voir autant branché, ça m'a pas fait peur. Je voyais que lui en fait. Il était super beau, il faisait 2,05 kg, donc c'était un très beau poids de force pour un bébé primat, 31 semaines, c'était incroyable. Ça a été une grosse force pour lui aussi. Donc voilà, il me faisait pas peur à voir. Voilà. Et du coup, j'étais très fière de le voir. Mais voilà, c'était vraiment les blouses blanches qui m'ont fait peur par contre, de voir autant de monde autour de lui. Je me dis, mais pourquoi il y a autant de monde? Donc au fur et à mesure, on vient, on nous explique. Parce que moi, la première chose, je dis, bah, la vessie, comment ça se passe? Pourquoi? D'où ça vient? Bah, ils vous disent tout de suite, ils vous arrêtent, et ils vous disent, non, mais là, on ne va pas parler de la vessie, on y reviendra plus tard, on va d'abord parler du côté respiratoire, parce que votre bébé, il ne respire pas. Ah bon? Mais on m'avait dit que ça pouvait bien se passer, niveau respiratoire, à 31 semaines. Oui, mais là, ce n'est pas trop le cas pour l'instant. Votre bébé, on est en train de faire tout ce qu'il faut, on lui met tout ce qui est possible, et toutes les machines sont au maximum. Donc là, malheureusement, s'il y a... On n'a pas de marge de manœuvre s'il fait quoi que ce soit. Donc là, on m'explique que c'est très critique et qu'il peut se passer quoi que ce soit et ils ne pourront pas faire grand-chose pour l'instant. Donc là, première claque. Parce que là, on voit bien que sa vie, elle est en train de... C'est en train de tourner. Là, on est en train d'avoir un gros tableau noir devant nous et on ne parle même pas de la vessie, quoi. On ne parle même pas du problème de base. Et du coup, forcément, je tombe sur le cul parce que moi, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Donc voilà, il nous explique que là, pour l'instant, il faut d'abord rester fixé sur le niveau respiratoire. Il faut qu'on arrive à passer ce cap-là qui est très grave. Donc voilà, votre bébé ne respire pas. Donc ensuite, il nous explique finalement qu'ils ont décelé le pneumothorax, donc un poumon qui s'est décollé durant certainement la césarienne. En fait, la prématurité fait que voilà, ça s'est décollé. et que le deuxième poumon, donc c'est une maladie hyaline, le poumon n'est pas développé. Donc il n'avait pas grand-chose pour pouvoir réussir à respirer tout seul. Donc il s'est battu et donc ils lui ont fait un drainage et qui ont pu facilement recoller, enfin facilement non, ils lui ont bien recollé son poumon au bout de 2-3 jours. Ça a permis de, voilà, d'avoir les machines qui ont pu être baissées et d'avoir une marge de manœuvre s'il se passe quelque chose. Donc là, on respire à nouveau. Au fur et à mesure, voilà, ça c'est, le niveau respiratoire a pu se remettre en place.
Et ça a pris combien de temps ?
Ça a été hyper rapide. Franchement, ça a été rapide. Alors en soi, niveau respiratoire, il faut du temps avec la prématurité. Donc on va dire que ça a quand même duré 3-4 mois. Où il a fallu donc d'abord l'intubation pour l'aider, ensuite il est passé par la CPAP qui est une aide respiratoire, et ensuite il a l'optiflow, donc des petites lunettes au niveau du nez pour que voilà, ce soit lui qui respire mais qu'il a toujours des petits jets d'oxygène s'il en a besoin pour éviter qu'il désature de trop. Donc, et tout ça, ça a duré environ 3-4 mois. Voilà.
Mais au bout de combien de temps vous avez su qu'il était hors de danger
Au niveau respiratoire, une fois que le pneumothorax s'est recollé, déjà au bout de 2-3 jours, qu'on a descendu toutes les machines à presque 50%, déjà on limite le danger vital parce que voilà, maintenant on a une marge de manœuvre. Et après, ça a continué à se remettre au fur et à mesure. Donc voilà, dans les journées à venir, ça, c'était toujours de mieux en mieux, où là on écartait vraiment le danger au fur et à mesure. Donc vraiment, voilà, dans les... le premier mois, voilà, on a pu écarter ce danger respiratoire.
Et donc là, à ce moment-là, tu peux passer du temps avec ton bébé
Alors, du coup, il était beaucoup sédaté. Donc au début, il n'était pas très réactif. Et pour pas qu'il souffre, parce que c'était quand même très douloureux tout ce qu'il pouvait subir, mais il a très bien supporté, du coup. Mais voilà, déjà, donc, une fois que le tableau bien sombre a pu être écarté, voilà, il s'est vite remis du côté respiratoire. Et au fur et à mesure, voilà, on a pu diminuer un petit peu la sédation. Et donc, on a pu le découvrir, en fait. Parce que, voilà, avant ça, on ne connaissait pas vraiment. Donc, on a pu le découvrir. Et donc, il a ouvert les yeux un mois de vie, à peu près. Il a commencé à ouvrir les yeux.
Vous êtes resté un mois à l'hôpital ?
Oui.
Ok.
Ouais, on est resté, même plus que ça. Au final, il est resté presque 4 bons mois, voire presque 5. Parce qu'après, il a eu plein de virus qui a fait qu'il devait retourner à l'hôpital. Mais ensuite est venu le problème de la vessie. Donc là, on commence à reparler de la vessie une fois que le niveau respiratoire allait beaucoup mieux. Et donc là, il nous confirme bien la malformation, donc la valve de l'urètre. Donc c'est une malformation dans l'urètre qui a bloqué l'urine dans sa vessie et qui a eu le temps, du coup, de créer un reflux et ça a eu le temps de détruire ses reins. Donc là... voilà, il nous explique ça. Donc les reins, ensuite, au fur et à mesure, on a les informations. Donc d'abord, on vient de dire, il y a un rein qui a été abîmé. Mais après, on vit bien avec un rein. Voilà. Après, on vient nous voir, on nous dit, le deuxième, il est peut-être pas si bien que ça. Et puis après, on vient nous voir, on nous dit, les deux sont pas très bien. Mais alors, on peut pas encore savoir à quel dosage, à quelle fonction ils ont, parce qu'il est encore trop petit pour savoir comment est-ce qu'il fonctionne. Donc voilà, on tâte un peu, on attend, on nous explique un petit peu pour savoir, en fait, ils font des prises de sang tous les jours pour essayer de voir à peu près comment va l'évolution de ses reins. Et puis on voit bien que ça va dans le sens inverse, ça se dégrade tous les jours ça se dégrade. Et puis donc on a une néphrologue au Mans, mais voilà, qui est pas non plus, ça fait pas longtemps qu'elle est dans le service de la néphrologie. Et du coup, on n'est pas vraiment très, très spécialisée. Enfin, elle l'est, mais elle n'a pas tout en main pour nous expliquer et toutes les réponses à nos questions. Donc, en fait, elle se base avec la néphrologie de Nantes, qui sont vraiment spécialisées là-dessus. Et voilà. Et donc, ils ont cet intermédiaire-là pour avoir des informations, savoir quoi faire, comment essayer de gérer ça. Et jusqu'au jour où c'est plus gérable, dans ce cas-là, il faudra qu'on aille à Nantes. Donc, on redoutait ce moment-là, le jour où on nous dit qu'il faut aller à Nantes, parce qu'on sait que ça veut dire que ça devient grave, en fait. Et il y a un jour, du jour au lendemain, on nous explique qu'on va la fois aller à Nantes. Parce que voilà, ça se dégrade toujours et ça devient plus possible de gérer comme ça parce que ça devient grave. Donc effectivement, on arrive à Nantes. Donc là, ça a été très, très rapide et très clair et net. Ça a été dur mais en l'entendre, mais au moins ça a été clair. Donc elle arrive, elle nous explique que les taux qu'a Eden sont beaucoup trop hauts pour son âge. Il faut se dire qu'à l'âge adulte, il serait par terre. La personne serait par terre. Donc il faut se dire quand même qu'Aiden il est quand même là et qu'il réagit, donc ça c'était vraiment un bon point, mais malgré tout les taux devenaient beaucoup trop hauts. Donc elle a dit voilà, si on continue dans ce sens là on va avoir un vrai problème. Donc là elle est en train de me dire ça devient grave, ça veut dire qu'on peut encore le perdre. Donc elle nous explique la seule solution qu'on peut avoir c'est la dialyse aujourd'hui, mais c'est humainement impossible de faire de la dialyse sur un bébé moins de 3 kilos, Et là, il faisait 1,7 kg. Donc là, on dit, vous êtes en train de dire que la seule chose qu'on peut faire, là, on ne peut pas la faire. On ne peut pas sauver notre bébé. Là, vous êtes en train de dire, on laisse partir notre bébé. Donc elle dit, non, je ne dis pas ça. On va essayer de mettre en place des choses. Mais voilà, je vous explique que c'est compliqué, hein, ce qui est en train de se passer. Que là, les taux de votre bébé, ça devient vital, ça devient dangereux. Et qu'on ne peut pas le laisser comme ça. Mais on n'a pas 36 solutions. Donc, bon, il faut digérer ça déjà. Et après, donc, elle nous explique qu'ils vont mettre en place un système de cartes. Donc, ce sont des ions pour stabiliser ses apports et ce qu'il a besoin, pour essayer de stabiliser ça et essayer de freiner donc, sa chute vertigineuse de la dégradation de ses reins et pour pouvoir maîtriser ça en attendant qu'il atteigne les 3 kilos. Donc, elle a dit que ça va être très rapide, hein, en fait, dans la nuit, ça va être décisif. Si le lendemain, on voit que les résultats freinent ou commencent à rediminuer, on va dans le bon sens et on va pouvoir avoir plus d'action. Et si c'est pas le cas, bon, bah là, il va falloir réfléchir à d'autres choses. Donc là, ça va devenir compliqué, on va avoir un problème. Donc la nuit la plus difficile de notre vie, encore une fois, parce que bah voilà, on sait encore une fois qu'on peut perdre notre bébé. Et le lendemain, elle revient et elle a même pas eu besoin de nous parler, on a vu sa tête en fait. Elle avait le grand sourire et puis elle avait le pouce levé. Donc là, on s'est dit, mon Dieu, ça y est, c'est en train de redescendre, on va pouvoir respirer et on va dire, bon, on va encore avoir des options. Rien n'est gagné, mais déjà, ça veut dire qu'on peut avoir des options. Donc là, on respire encore une nouvelle fois. Notre bébé s'est encore battu. Donc on respire. Et puis bah là, voilà, on nous explique un petit peu plus maintenant d'où vient le problème, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, la maladie, l'insuffisance rénale, parce que tout ça, bah, en fait, on ne savait pas. Enfin, moi, personnellement, je ne savais pas tout ça. Donc là, l'objectif, c'était d'atteindre les 3 kilos. Voilà. Parce qu'à partir des 3 kilos, il a le droit d'être dialysé. On rééquilibrait à chaque fois ses traitements pour, voilà, pour pouvoir atteindre ces 3 kilos-là et passer par la dialyse. Et au final, bonne surprise, jusqu'à ces 3 kilos, en fait, on a réussi à toujours améliorer. Donc, la créatinine, qui est un facteur de la fonction rénale, et jusqu'aux 3 kilos, on a même pu écarter la dialyse, parce qu'on a réussi, avec le traitement, à substituer, du coup, et à travailler comme ça avec ses reins. Donc aujourd'hui encore, on a pu écarter la dialyse, et franchement, ça c'est incroyable, un incroyable cadeau avec tout ce qui s'est passé. Avec le départ, c'était quelque chose qui était... On était sûr de passer par la case-dialyse et on a pu l'écarter encore aujourd'hui. Donc,
parce que la dialyse, c'est très lourd comme traitement.
Bah c'est vraiment, on va complètement épurger le sang. Mmh. Donc on fait un changement de sang dans son corps pour pouvoir enlever tout le poison, en fait. Donc c'est quand même pas rien, c'est assez conséquent. Il faut faire une formation 1 an pour pouvoir faire la dialyse péritonéale à la maison. Donc on était prêts à faire tout ça, hein, parce que voilà, on dit notre bébé, il a survécu à tout ça, maintenant... Maintenant, je veux dire, on est prêt à tout faire pour qu'il puisse rester parmi nous. Donc ça, on nous apprend tout ça. Et voilà, aujourd'hui, on a pu écarter la dialyse. Donc il a eu 2 opérations. Donc il a eu sa première opération à 1 mois de vie pour résiquer cette fameuse valve de l'urètre qui faisait barrière dans son urètre, qui est une simple opération, qui est très rapide. Et donc ça a pu permettre d'enlever la sonde au niveau de son urine et de avoir du coup une fonction de la vessie. Donc là, sa première opération, elle s'est très bien passée. Il faut savoir qu'une valve de l'urètre, cette malformation-là, elle arrive à n'importe quel âge et à n'importe quel moment.
D'accord.
Malheureusement, comme c'était durant la grossesse, c'est très compliqué d'opérer durant une grossesse et c'est ce qui a causé autant de dommages, en fait. Et donc, la deuxième opération, donc c'était le 25 avril 2018. Donc là, c'était pour poser la gastrostomie, donc ce petit bouton qui est relié directement à l'estomac, pour pouvoir lui apporter tous ses apports. Donc son traitement et sa nutrition en intégrale, parce que bah, la maladie fait qu'il n'a pas faim. Et il est très nauséeux, et donc il vomit très facilement. Donc pour pouvoir quand même avoir une bonne croissance, et voilà, pour atteindre le poids, surtout le 10 kg pour être sur la liste d'attente de greffe, c'est important qu'il ait...
Bah alors, on a Eden avec nous pour l'interview. Tu veux participer ? Ouais, oui.
Et donc, pour une bonne croissance, et ben c'était important de pouvoir poser cette gastrostomie-là pour pallier à ce qui pouvait lui empêcher de manger, en fait.
Et alors, comment s'organise la vie au quotidien quand on a un enfant malade ?
Alors, au début, c'était très difficile. Très difficile parce qu'il faut accepter tout ça, parce que ça nous tombe dessus, on n'a pas compris pourquoi. Donc, c'était difficile d'accepter tout ça, trouver une place. On a été bien suivis aussi avec une psychologue qui nous a aidés et qui nous aide toujours. Et à trouver une place, à apprendre, à apprivoiser tout ça. Après, à l'hôpital, ils nous apprennent vraiment beaucoup de choses pour pouvoir vraiment bien s'adapter à notre bébé et de façon à ce qu'on reste le plus possible à la maison aussi. Donc voilà, il a fallu se réadapter et ça a mis du temps, très sincèrement. Mais aujourd'hui, voilà, en fait, tant que la maladie n'était pas stable, on a eu du mal. Vraiment, on a eu beaucoup de mal.
Donc c'était beaucoup d'aller-retour à l'hôpital.
Beaucoup d'aller-retour parce que dès qu'il y avait des petits virus, en fait, bah, fallait aller à l'hôpital, ce qui était très fragile et ça prend une grosse ampleur sur lui. Donc on a eu du mal à sortir de l'hôpital. Mais une fois qu'on est sorti, voilà, on a pu vraiment apprendre à s'adapter.
Parce que comment ça s'organise par rapport au travail, par exemple?
Alors le travail, du coup, j'ai pu bénéficier d'un congé de présence parentale pour rester auprès de mon enfant qui est malade, parce que sinon il serait toujours à l'hôpital, en fait. Donc j'ai eu le droit à ce congé-là pour rester à la maison. Donc ça, c'est super pour rattraper le temps perdu aussi avec mon grand, Evan, et pour récupérer le temps perdu qu'on a eu aussi ensemble, parce que voilà, on n'était pas vraiment ensemble quand il était dans sa couveuse.
Mais t'as dormi souvent à l'hôpital,
ça? Oui. Enfin, le maximum de ce que je pouvais, je le faisais. Aux soins intensifs, c'est pas possible, parce que là, ça veut dire que sa vie était trop en danger pour rester dans la même pièce, pour dormir du moins. Mais dès que je pouvais, je dormais auprès de lui, parce que j'ai pu l'allaiter 3 mois, quasiment. Donc c'est une belle victoire, parce que c'était très difficile à mettre en place quand son corps ne comprend pas ce qui se passe. Quand il n'y a pas son bébé auprès de soi pour stimuler, il fallait que je me lève toute seule la nuit pour stimuler mon lait. Mais voilà, pour l'allaiter, j'ai resté au maximum dès qu'il a pu commencer à prendre un petit peu au sein. Donc ça, c'était un magnifique cadeau. Et c'est à partir du moment que l'on a eu de la stabilité dans sa maladie, donc ça nous a donné du répit, vraiment. Et on a pu vraiment apprendre plus facilement à s'adapter vraiment à la maison, à prendre une place, aussi bien pour papa, pour moi. Son tout grand frère, ça s'est fait très naturellement dès le début, en fait. Donc ça s'est plutôt... plutôt bien passé avec son grand frère, très très bien. Et à partir de ce moment-là, voilà, on a réussi à accepter beaucoup plus facilement les choses et à trouver une place. Et voilà, à partir de là, ça s'est fait correctement, papa a repris le travail. J'ai pu reprendre un peu le sport pour évacuer aussi à un moment donné. Et j'ai pu découvrir davantage Instagram, et qui m'a aussi beaucoup aidée, en fait, à pouvoir vider un petit peu mon sac et à trouver beaucoup de soutien et de bienveillance.
Et du coup, son grand frère, comment il vit tout ça?
Alors au début, tant que c'était à l'hôpital, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Ce qui était difficile pour lui, c'était de le balancer d'une maison à une autre, entre guillemets. Après, heureusement, ça restait la même maison, la maison de ses grands-parents. Donc chez papy et mamie, ont été un super pied-à-terre très important pour nous. Et bon, ce qui était difficile pour lui, c'était les moments de séparation où du coup, il appréhendait ces moments-là, parce que il savait bien que voilà, il y avait un moment de séparation. Donc voilà, ça ensuite l'hôpital, on a commencé à le faire venir voir son frère quand c'était plus stable et quand on est revenu de Nantes, où là les choses étaient plus sereines et on était plus sur du vital en tout cas. Mais à l'hôpital, il avait même pas 2 ans, il avait vraiment 1 an et demi, donc il comprenait pas vraiment ce qui se passe. Donc la seule chose qui l'intéressait, c'était plutôt de jouer avec les machines. Donc voilà, les infirmières, elles se sont aussi occupées de lui, donc ça s'est quand même bien passé, mais il ne comprenait pas vraiment ce qui se passe. Et c'est vraiment quand on est rentré à la maison avec son petit frère que là, il s'est rendu compte que c'était son petit frère. Il a tout de suite été très attentionné, beaucoup de câlins, beaucoup de douceur. Il a été vraiment très doux. Alors, il est plutôt brut de pomme, hein, mais il a été très doux avec son petit frère, et en fait, on lui a bien expliqué les choses. La psychologue nous a vraiment expliqué, nous a dit un peu aussi comment gérer ça, comment faire. Et du coup, voilà, de lui expliquer les choses, chose qu'à la base, on n'aurait pas fait, parce qu'on s'est dit, il ne va pas comprendre, il ne sert à rien de l'expliquer. Et en fait, bien au contraire, il a vraiment compris les choses en lui montrant. Et au contraire, il a voulu aussi s'investir et faire des choses avec nous, des soins. Et donc, il est trop fan de son petit frère. Il est amoureux de son petit frère.
Et vous avez bien été accompagnée à l'hôpital pour justement savoir comment faire quand vous alliez rentrer chez vous?
Non. Toutes les infirmières qui s'occupent de lui... aux soins intensifs, elles ont été aux petits soins, elles ont pris tout le temps qu'il fallait. De toute façon, voilà, c'était hors de question qu'on parte de l'hôpital tant que nous on n'était pas sereins, pas en confiance. Mais voilà, elles nous ont vraiment tout montré, tout expliqué. Alors c'est plein de choses, c'est ultra précis, donc on va pas rentrer dedans parce que là je vais vous en faire un livre. Mais non, elles ont vraiment été géniales. Et puis même quand on était à la maison, on se sentait rassurés de se dire que, en fait, même à la maison, on n'était pas seuls. On pouvait les appeler à n'importe quel moment. Elles ont toujours été là pour nous répondre. Puis elles connaissent parfaitement Eden, parce que c'est des cas rares dans sa maladie. Et elles savaient quoi quoi faire, quoi nous répondre et quoi nous aider. Et quand ça devenait au-delà, on savait qu'on était redirigé sur Nantes automatiquement. Mais on a vraiment été bien entourés et ça a été très rassurant pour nous de savoir que voilà, il y avait toujours quelque chose, quelqu'un, une oreille pour nous et encore aujourd'hui.
Et comment tu gères du coup, il y a eu des soucis à la maison, j'imagine, pour Aiden
Oui, parce que des difficultés, des choses qu'on sentait que ça commençait à devenir difficile à gérer à la maison en fait. Donc, du fait qu'on nous apprend tout ça, on savait décrire et savoir que quand ça allait pas, que ça devenait plus possible, qu'il fallait faire direction hôpital rapidement. Donc, on a appris à connaître tous les gestes importants pour savoir quoi faire à ce moment-là, en fait. Il y a eu beaucoup d'allers-retours à l'hôpital vis-à-vis de ça pour être pris en charge, mais on savait, on nous a expliqué que voilà, la première année, ça sera un bébé qui sera beaucoup à l'hôpital parce qu'il aura facilement des virus, parce qu'il est très fragile, et que voilà, c'est un bébé qui a besoin de beaucoup plus d'attention, forcément, avec sa maladie. Donc, pour ne pas impacter ses reins, il faudra automatiquement qu'il soit hospitalisé.
Et alors, tu l'appelles ton petit guerrier?
Voilà, parce qu'avec tout ce qu'il a pu vivre dans sa vie, déjà un peu de temps, en fait, il a carrément déjà vécu la guerre. Il a survécu à tout ça, malgré que le tableau était vraiment très noir. Il y avait vraiment, on nous a quand même vraiment préparé au pire, parce que pour eux, ça allait dans ce sens-là, sincèrement, et ils n'imaginaient pas que, déjà niveau respiratoire, c'était incroyable qu'ils puissent passer cette étape-là en peu de temps et rapidement, et franchement, le tableau était très très sombre. Et malgré tout ça, j'ai jamais voulu baisser les bras. C'était difficile, mais j'ai jamais voulu baisser les bras parce que j'ai appris à l'apprendre, même s'il n'était pas réactif au début. J'ai appris à écouter son monitoring, sa fréquence cardiaque, à savoir quand il désaturait, qui était la meilleure position pour lui pour qu'il désature le moins. Et tant que je voyais une ligne, en fait, sur cet écran-là, je me suis pas permise de baisser les bras. Et que tant qu'il était là et qu'il vivait et qu'il se battait, j'allais pas me baisser les bras. Et il s'est battu et du coup, c'est devenu un vrai petit guerrier. Il a réussi à passer tout ça, malgré que c'était très sombre. Et aujourd'hui, il vit et il est hyper joyeux. Il a tout sourire et il est malade et il ne nous montre même pas qu'il est malade.
Je confirme. Et tu parles souvent de la force qu'il vous donne à toi et ton mari, comme si en fait parfois le rôle protecteur s'inversait un petit peu.
Parce que c'est vraiment lui qui nous a appris beaucoup de choses sur la vie. Il nous a donné la force en fait de se battre parce qu'il se battait et en fait il y avait des fois on voulait tout laisser tomber mais on se dit mais non, c'est pas nous qui vivons ça, c'est lui. Et c'est lui qui avait la force de nous montrer qu'il se battait et qu'il a passé tout ça. Et donc sa force fait notre force. Franchement, j'ai pas d'autre mot, c'est ça. Sa force fait notre force. Et puis de se retrouver tous les quatre en famille, c'est notre force à nous maintenant.
Et alors, tu expliquais aussi que tu avais la possibilité de lui donner ton rein, mais que tu préférais le garder pour le moment.
On sait pertinemment qu'il n'aura pas qu'une greffe dans sa vie. Il sera greffé très tôt, parce qu'on sait que le stade de sa maladie, il est en pré-terminale. Donc, il a la fin de la phase de la maladie. Donc, on sait qu'il va être greffé là, dans les années proches à venir, donc très tôt. Et donc, qui dit très tôt, dit que quand on est enfant, on est prioritaire sur les listes d'attente de greffe. Donc il n'aura qu'une attente de 6 mois à 1 an, ce qui est hyper rapide en fait. Donc d'attendre un donneur en peu de temps comme ça, déjà c'est vraiment une bénédiction de pouvoir lui enlever le poids de sa maladie comme ça. Et chaque greffe est très importante en fait pour essayer qu'il y ait la meilleure compatibilité et pour qu'elle puisse tenir le plus longtemps possible dans sa vie. Donc l'idée c'est d'attendre dans un premier temps du coup un donneur. Et moi de préserver le mien et celui de papa en fait, parce que voilà, on ne sait pas encore aujourd'hui lequel entre nous deux sera le plus compatible, et s'il y en a un de nous deux déjà, parce qu'ensuite on sait qu'on devra y repasser quand il sera plus grand, donc à partir de l'âge d'adulte, à partir de l'âge de 18 ans, quand il aura avoir une greffe, il sera plus prioritaire, et donc là il pourra avoir des années d'attente et il devra automatiquement repasser par la case dialyse. Et pour lui éviter tout ça, à ce moment-là, c'était plus intéressant pour nous de lui garder notre rein pour qu'il évite d'attendre tout ça, en fait. Donc, en espérant qu'il ait la meilleure compatibilité pour lui et qu'elle puisse durer le plus longtemps possible. Donc vraiment, chaque greffe est très importante. Et on fera ces matchs-là, à ce moment-là, savoir qui a la meilleure compatibilité, sachant que l'un des deux parents les deux parents ont automatiquement 50% de compatibilité déjà de base. Après, il y a plein de facteurs qui vont faire voilà, savoir lequel de nous deux sera la meilleure compatibilité. Voilà. Après, ça sera un donneur de son vivant peut donner son rein que dans le cercle familial, parce que c'est un organe vital qui ne se donne pas comme ça non plus. Donc voilà, à ce moment-là, on préfère le garder pour ces moments-là, parce que s'il en aura besoin de plusieurs, et ben, on veut être là, répondre à ce moment-là pour qu'il évite d'avoir trop d'années d'attente.
Et alors, le 17 octobre dernier, journée mondiale de la greffe et du don d'organes, tu as contacté pas mal de personnes sur Instagram. C'est d'ailleurs comme ça que je t'ai connue. Comment t'es venue cette idée pour sensibiliser au don d'organes ?
En commençant sur Instagram et en commençant à expliquer son histoire, j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de bienveillance et beaucoup de personnes qui étaient vraiment intéressées par son histoire et qui s'intéressaient et qui ont commencé à poser des questions sur le don d'organes, justement. Pourquoi est-ce qu'elle en avait besoin ? À quel moment ? Comment ça se fait que c'est possible de le faire à cet âge-là ? Enfin, voilà, beaucoup de questionnements là-dessus. Et puis, on se rend compte, on s'intéresse au don d'organes parce qu'on sait qu'on va y passer. Donc, automatiquement, voilà, j'ai voulu... continue à expliquer son histoire. Mon objectif principal, du coup, reste voilà, d'expliquer son histoire pour sensibiliser l'importance qui est le don de l'organe, parce que malheureusement, il y a encore trop de gens qui ne sont pas au courant qu'il y a la loi qui est passée, qu'est-ce que ça implique, et qu'il y a juste une parole à donner. Il y a encore voilà, beaucoup de gens qui ne le savent pas, et de pouvoir parler son histoire et de sensibiliser et de se faire comprendre l'importance que le don a, et ben, voilà, ça m'est très important, et du coup, c'est une action qui m'est chère.
Donc cette loi, c'est quoi pour rappel ?
Donc c'est le 17 janvier qu'elle est passée, qui permet de, voilà, d'aujourd'hui qu'il y a juste un mot à dire autour de soi pour dire qu'on est donneur, en fait. Il y a juste une phrase. Il faut que ce soit juste autour de soi, sa famille, qu'il le sache. Malheureusement, voilà, parce que c'est un sujet qui est encore tabou, parce que les gens ne veulent pas parler de ça, parce que ça fait peur, pour savoir que ça n'arrive pas qu'aux autres et qu'il y a juste un mot à dire. Et que c'est pour ça que je me bats et que c'est important de le dire et que ça sauve des vies comme Aiden, en fait. Donc, voilà, c'est important de le savoir et les gens ne se rendent pas compte de ça, ils ne savent pas. Pour eux, il y a encore besoin de cette carte-là.
La carte de donneur qui n'est plus obligatoire.
Qui n'est plus obligatoire de l'avoir. J'ai envie de dire, c'est plutôt une fierté. Voilà, moi, je l'ai quand même fait parce que j'étais fière de l'avoir et de montrer que voilà, je le suis, je le fais. Et que ça permet de, voilà, de pouvoir toujours continuer à porter ce message-là. Mais voilà, qu'il y a juste à le dire et que si on veut refuser, qu'il y a un simple courrier à faire ou pareil, c'est simplement de le dire autour de soi et c'est la famille qui prendra la décision. Et malheureusement, les familles, quand ils ne connaissent pas la décision, ils vont préférer se rétracter, refuser que de donner une décision sans savoir ce que voulait réellement la personne. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui, alors qu'il y a juste à parler.
Et alors aujourd'hui, où il en est, Aiden, dans son combat ?
Alors aujourd'hui, on a de la stabilité dans sa maladie. Donc voilà, on est toujours au stade préterminal de la maladie. Mais de la stabilité, ça nous permet donc d'avoir du répit, de pouvoir se préparer à la greffe. Et plus on se prépare, mieux c'est pour qu'elle puisse bien se passer et qu'elle puisse tenir le plus longtemps possible. C'est un super cadeau qu'il nous donne d'ailleurs. Donc ça fait du bien de pouvoir vraiment se préparer à tout ça et de pouvoir profiter de porter ce message-là important aussi. Donc là, voilà, on fait des examens tous les mois pour vérifier comment ça se passe, si c'est équilibré au niveau de ses ions, de tous ses résultats, de ses bilans sanguins, de plein de choses. Et c'est comme ça qu'on verra bien quand arrivera la dégradation des reins et qu'on pourra malgré tout se préparer parce que ça va arriver, ça arrivera, mais ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Donc ça arrivera progressivement, mais on le verra arriver et on sera prêt à ça.
Et qu'est-ce qu'il faudra faire dans ce cas-là ?
Et là, l'objectif, c'est d'atteindre d'abord les 10 kilos pour qu'ensuite on puisse justement être sur la liste d'attente de greffe. Donc là, l'objectif, d'être à 10 kilos principalement. Et une fois qu'on y sera, on ne mettra peut-être pas tout de suite sur la liste d'attente parce que pour l'instant, tant qu'on arrive à être stable dans sa maladie et à substituer avec le traitement, on peut encore retarder un petit peu cette échéance-là. Ce ne sera pas non plus des années et des années parce qu'on sait que ça va arriver, mais ça nous fait gagner toujours du temps pour se préparer.
Et alors, c'est quoi être une Wonder Mum ?
Une Wonder Mum. Alors, c'est une maman, déjà. Alors, toutes les mamans, c'est des Wonder, déjà. Et pour ma part, c'est être une maman infirmière. Moi, j'ai appris à voir des choses que je ne serais jamais restée debout, en fait. Il y a des choses où j'ai appris à devenir une guerrière en moi. Et une guerrière en moi qui est sortie parce que j'ai appris à voir des choses que je ne pouvais pas voir. que des choses, je serais par terre en fait. Une première prise de sang déjà sur mon premier bébé, je pouvais pas rester, j'étais dans le couloir. Et là, j'ai appris à le voir avec plein de prises de sang, des perfusions à la tête, qui lâche, et je me suis retrouvée avec sa tête pleine de sang. De le voir piquer, j'ai toujours voulu être là et voir tout ce qui se passe et rester là pour lui parce que c'est lui qui subissait et pas moi. J'ai appris à changer vis-à-vis de ça. Et j'ai appris, voilà, le jour où je l'ai vu se faire désintuber, où je l'ai vu changer de couleur parce que du coup il avait du mal à reprendre sa respiration, ou franchement pareil, là c'était très dur, hein, mais à la base je serais par terre dès le début, quoi. Mais non, j'ai appris à rester là, à rester debout pour lui et à voir tout ça, et même quand on entend son bébé hurler, voilà, j'ai voulu rester là et pas flancher, j'ai jamais flanché, j'ai pas voulu flancher pour lui.
On va passer aux questions de fin d'épisode un peu plus légères. C'est quoi pour toi être une maman bretonne ?
Alors, c'est une maman plein de couleurs et qui ne baisse jamais les bras.
Et quels sont tes projets pour toi et ceux en famille ?
Une grosse remise en question sur ma carrière pour l'instant qui est en temps mort, et donc forcément je réfléchis encore là-dessus sur mon avenir et sur ce que je veux faire. Et toujours vivre au jour le jour, profiter de chaque instant en famille, c'est très important. Et voilà, on va continuer de se battre et ne jamais baisser les bras et porter ce message-là très important à nos cœurs.
Merci beaucoup Marine.
C'est moi qui te remercie. Au revoir.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Si vous souhaitez en savoir plus sur le don d'organes, je vous invite à consulter le site dondorganes.fr. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Marine, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 10 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode!